Ladies and gentlemen, Archie Shepp, beautiful, beautiful baby.
Archie Shepp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes saxophoniste, pianiste, chanteur, compositeur.
Oui, écrivain.
Écrivain.
Oui.
Vous êtes né en Floride en 1937.
Oui.
Mais vous avez grandi à Philadelphie.
Oui.
Vous avez fait des études de musique et de théâtre.
De théâtre, en fait. J'ai fait des études de musique quand j'étais en lycée, collège. Là, j'ai pris des leçons piano, clarinette.
Ok.
Mais en lycée, en fait, j'ai commencé avec la loi. I wanted to become a lawyer. And in my sophomore year, the deuxième année en université, j'ai rencontré un homme qui, en fait, mon professeur, he convinced me that I could be a dramatist. Et en fait, j'ai changé mon métier à dramatics. J'ai fait beaucoup de comédies et quand à la fin de l'université, j'avais une mise en scène qui était faite à New York, off-Broadway, de 1964. Aussi, j'ai écrit deux autres morceaux, pièces qui étaient faites à Brooklyn College, sous la direction du professeur Maurice Watson.
Est-ce que la pièce de 1964, c'est celle qui s'appelait à l'époque The Communist?
Oui, c'était au début, c'était le titre, mais c'était changé.
C'est devenu Junebug.
Oui, le temps de la production, le nom a changé.
Et donc, au départ, vous vouliez être acteur et écrivain.
Écrivain et...
Écrivain surtout?
En fait, après l'université, j'ai fait plus de comédie. J'ai fait assez de comédie en université. Mais après, j'étais un dramatiste. Et j'ai continué de jouer la musique, mais pas professionnellement à ce point-là.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de voix pour la musique?
J'ai commencé de travailler avec Cecil Taylor, le pianiste, et we didn't work much. On n'a pas travaillé beaucoup parce que Cecil n'était pas vraiment un musicien populaire. Et enfin, quand on a trouvé un venue pour quelque temps, c'était dans le théâtre. En fait, though I wanted to become a writer, finally, when I did get a chance to be in a play, I was a musician. It was a play called The Connection.
The Connection, yeah.
Yes, and...
By Jack Galber.
Jack Galber. And donc, j'ai pensé peut-être le Seigneur pour moi d'être un...
Un musicien. Donc, vous êtes devenu musicien grâce au théâtre.
Une partie de ça, oui, on peut dire.
Et donc, pendant les années 60, vous êtes en fait, vous avez été connu et reconnu comme une des icônes et une des figures du free jazz.
On peut dire free jazz. Moi, j'utilise pas le terme jazz ni free.
Qu'est-ce que vous utilisez comme terme?
Je préfère la musique africaine-américaine.
Pourquoi?
Parce que c'est ça. C'est notre musique.
Oui.
Oui, mais nous sommes plus jamais donné le crédit pour notre création. Et je crois que c'est pour ça que la gauche ne connaît pas bien notre musique. Ils ne connaissent pas qu'en fait, c'était créé par des peuples noirs. Tous des grands musiciens, je peux donner un exemple, tous des grands musiciens, à partir de Louis Armstrong jusqu'à Wynton Marsalis, et là, il y a aussi Charlie Parker, John Coltrane, Art Tatum, tous des grands musiciens, tous des influences, même sur des musiciens blancs. Benny Goodman était bien influencé par un musicien noir de Nouvelle-Orléans, Jimmy Noon. La gauche ne connaît pas Jimmy Noon, mais la gauche, ils connaissent Benny Goodman.
Oui. Et quand vous dites musique africaine-américaine, vous incluez aussi le blues, la soul, le gospel et aujourd'hui le rap ou pas?
Oh, tous ces noms sont en fait confusants. Rap, soul, blues, blablabla. La musique noire. Et là, il y a un continuum. Yes, rap, soul, blues. C'est tout, black music.
Est-ce que vous souscriviez à l'époque à l'appellation Great Black Music et aujourd'hui?
Well, il y a des gens qui utilisent cette, who use that term. Mm. I don't think it's necessary to say Great Black Music.
Black music is enough.
I think so. And même de donner musique en colère. C'est
en colère?
To give, to assign a color to music, I think is it doesn't. C'est pas en fait. Qu'est-ce que je veux dire? I don't really mean to say that music is black.
Then what do you mean?
That the music we're talking about was created by black people. And today, anybody can play that music. I mean, Benny Goodman, Artie Shaw, Eminem, the rapper, il est blanc. Music has no color. But we should be honest enough to say where the music comes from. Par exemple, il y a une tradition de musique française. Si j'ai appelé musique du Mississippi, les Français auraient été très en colère. En fait, il y a une tradition, une culture française, et c'est bien reconnu. Il y a aussi une tradition, une culture noire aux États-Unis, et même dans la diaspora, je parle de Martinique, Guadeloupe, le Guoka, le Bel Air, des danses qui viennent des religions comme Candomblé, Santeria, Voodoo. Il y a une culture très riche créée par des Noirs dans le nouvel, au Nouvel Monde. In the New World, we brought a powerful tradition of music, dance.
Est-ce que vous...
Est-ce language. Because much of the language that the young people do, they say, that's cool. That's where that comes from, l'argot noir. Il y a beaucoup d'expressions comme ça, qui, même le langage noir a beaucoup influencé la culture entière, et tout le monde. The French people frequently use like rap. Le rap, ça vient des États-Unis. Mais on peut trouver maintenant en Afrique, en Chine, partout. Donc notre culture a bien influencé world culture, has been, tout le monde.
Absolument.
Ouais.
à quelle période est-ce que vous avez emménagé ici en France? Quand est-ce que vous avez emménagé en France?
J'ai jamais vécu, je suis jamais vécu ici. J'étais ici à partir pour des performances et des choses à partir de 1962. Mais j'ai jamais habité en France.
Vous avez jamais habité en France?
Non, jamais vivé. Et maintenant, je vis avec ma femme Monette, mais je suis ici 3 mois et après je viens chez moi aux États-Unis.
Ah, d'accord. D'accord.
J'habite en Massachusetts.
D'ailleurs, c'est un état où vous avez enseigné pendant 20 ans. Est-ce que vous enseignez encore?
Non, j'ai pris ma retraite en 2002.
Et alors, quand vous êtes ici en France, puisqu'on parle de la culture noire et de comment elle a influencé la culture du monde, toutes les cultures du monde, quel regard est-ce que vous portez sur la situation des Noirs en France?
Je crois... il y a un peu les mêmes conditions ici qui existent aux États-Unis, peut-être moins extrêmes, mais autant violents, si on regarde Charlie Hebdo et des choses. Il y a des choses qui correspondent dans tout le traitement des Noirs, des Bères, des Arabes ici, qui correspondent avec le traitement des gens de couleur aux États-Unis, des Noirs, des Hispaniques. Par exemple, la crise d'immigration, Marine Le Pen, elle a bien gagné parce que apparemment elle touche une certaine... feeling entre des Français qu'ils ne veulent plus des immigrés, ils ne veulent plus des personnes hors de leur peuple, le même peuple ethnique, société. In other words, they, like in America, white Americans want America to be a white country. I think Marine Le Pen wants France to be a white French country. And many people seem to agree with her.
Oui, je crois que quand on est allé à l'école française, on grandit dans l'idée que la France est un pays blanc.
Oui, on a ce sens, mais... Et en fait, c'est vrai, mais France comme Amérique, et bien mélangé, métissé avec beaucoup de gens, tous des groupes ethniques. I mean, there are many different races and cultures here in France. Et en fait, les Français, en principe, ils sont un peuple accueillant et disponible. Racisme est plus fort maintenant, autour du monde. Je crois en partie à cause de pauvreté, ignorance, chômage, beaucoup de gens au chômage. Donc, ça donne un rationnel pour le racisme. Marginalisation de quelques populations.
Pour revenir à la question de la culture, est-ce que vous, en tant qu'Africain-Américain, vous pouvez vous sentir proche de ce qu'on pourrait appeler une culture afro-péenne ?
Afro ?
Péenne, dans le sens afro-européenne.
Well, you could take, par exemple, M.C. Solar. Il représente une partie de la population noire qui a bien adapté la culture noire américaine, mais il a donné son identité à cette musique. Et c'est ça. Ça commence une musique afro-européenne, même en Afrique, ça commence une musique africaine-américaine. Des jeunes, ils ont bien adapté la musique de rap, hip-hop, et comme ça. Donc, il y a un autre sens d'afro-américaine. Ces Africains qui ont adapté la culture, ils trouvent en Amérique.
Il faudrait inverser, ce serait Américain-Africain.
Oui. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours une adaptation de la musique noire. Par exemple, Elvis Presley avait beaucoup d'influence dans la musique en Afrique.
Ah oui?
Ah oui, il y a beaucoup de... j'ai vu une émission d'une Kenyane, il est connu comme le Elvis de Kenya. Et,
ah oui?
Oui, il porte son cheveux, il joue guitare. Et Elvis, c'était son premier inspiration pour le blues. Donc, la musique noire... on peut dire que c'était influencé par la musique européenne, mais aussi la musique noire était adaptée de temps en temps par des blancs et imitée en Afrique dans un autre sens. I mean, Elvis is not an original blues. Elvis Presley, il est un imitateur. Mais il a gagné beaucoup de succès et en des pays comme l'Afrique, il était plus connu que beaucoup de bluesmen noirs. So, Africans can adapt black music by way of Europeans. Il y a cette contradiction dans la musique et la manière dont c'est transmettre. Yeah.
Ce que vous dites sur la manière dont la musique africaine-américaine a été récupérée par les Blancs et que souvent ça a été les Blancs qui en ont tiré du succès en fait.
Oui, et pas quelque temps pas, et c'est pas des Blancs. Que des Noirs sont payés au courant de leur propre création.
Oui. Ça rejoint un peu les thèses de Le Roi Jones, qui était quelqu'un que vous connaissiez bien, qui s'est appelé après Amiri Baraka.
Oui. J'ai connu bien.
Vous aviez travaillé ensemble?
Ah oui, plusieurs fois. Oui. Il était un homme très intelligent, très, un écrivain très important.
Et il s'opposait, enfin sa pensée s'opposait à celle de Ralph Ellison. Et j'étais curieuse, après l'émission de, après la dernière émission que j'ai faite à Hors Série, de vous demander ce que vous pensiez de la pensée de Ralph Ellison.
Il était une influence très forte quand j'ai fini l'université en 1959. Ses livres sont devenus importants et il a influencé Baraka et beaucoup des écrivains noirs. Moi, j'étais bien influencé par Ralph Ellison. Aussi, James Baldwin, qui était une influence, une inspiration très forte dans l'époque. Il était un intellectuel qui a vraiment expliqué les questions d'identité. C'est lui qui a dit « Nous sommes mieux que des blanches parce que nous avons essayé plus dur, nous avons perdu plus et quand même on continue malgré le racisme et tout. » Donc, avant lui, il y avait Richard Wright qui a dit « L'homme noir, il est aussi bien que l'homme blanc. » Jimmy, il dit « Non, nous sommes mieux. » Et donc, il a élevé un autre sens. Pour moi, en lycée, en université, j'ai commencé à penser « Pourquoi je suis... Je fais des comparaisons entre toi et moi, quand en fait, j'ai une autre espèce qui appartient à moi, qui, où il ne faut pas que je cherche des comparaisons. Il faut que je réalise mon potentiel. Mm. Pas que mon potentiel de devenir assez bon comme un blanc, mais de devenir qui je suis. Et il a élevé la question qui sommes, qui nous sommes, où are we? Ça, il faut, à part des autres races, des autres cultures, il faut qu'on est au courant de ton propre culture, ton propre identité. Et certaines choses, on ne trouve pas dans Invisible Man. Il était le premier de vraiment dans le sens littéraire de exprimer cette idée qu'il ne faut pas qu'on trouve identité entre par comparaison avec un autre race, mais l'identité existe dans la personne même. It is for you to find your own identity, not to compare, not to find your identity by comparing yourself with someone else or another race.
En français, oui. On n'utilise pas le mot race. En anglais, oui, mais.
Mm-hmm.
Don't use race in French.
Oh, you don't use race in French?
No, not really.
Oh, si.
On utilise le racisme, mais pas race.
Je suis désolée
d'avoir
interrompu. Oh, non, je vous en prie.
Mais... Ça, this is the point.
You know that.
No, I don't. J'accepte pas parce que quand je parle personnellement en privé avec des gens noirs. Là, entre des noirs, souvent ils expriment le même problème, le même racisme qu'ils trouvent ici en France, que je trouve aux États-Unis. Mais quand ces gens parlent avec des gens blancs, ils nient cette proposition. Ils disent, ah oui, en France, tout le monde est le même, il n'y a pas de racisme.
Tu m'as pas
mais
entendu.
Entre nous, il y a une espèce d'honnêteté. On ne trouve pas entre des gens de différentes races qu'on y parle.
I did not say that. Racism is existing.
Oh,
racism.
Yes.
Racism.
But the mot race n'existe pas en France.
Et je trouve que ça ferait du bien que tout le monde aille voir chez les anthropologues. La race n'existe pas dans l'humain. Il n'y en a qu'une race.
Oui, on est d'accord. Mais en fait, en France, le problème qu'on a avec le mot race, c'est qu'il il désigne une race biologique. Or, on est tous d'accord pour dire qu'elle n'existe pas. Et il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine. Mais parfois, à l'université ou dans des contextes un petit peu, disons, fermés, on peut utiliser le mot race avec des guillemets pour désigner des catégories sociologiques. Et donc après, pour parler des phénomènes de racisme et pour désigner ce qu'on peut appeler parfois aussi des ethnies. C'est juste une commodité de langage, en fait. Mais c'est vrai que c'est plutôt mal vu, surtout par la gauche. En parlant de gauche, quelle serait votre position politique si vous votiez en France ?
Si.
Si vous, est-ce que vous votez en France?
Non, je ne suis pas un citoyen.
Non, vous ne votez pas en France.
Je n'ai pas la carte ce jour-là.
Et si vous deviez voter, vous savez pour qui vous voteriez?
Oh, bien sûr. C'est important d'être engagé. Par exemple, je regarde maintenant Marine Le Pen, elle est votre représentative à l'European Union. C'est terrible, c'était stupide dans la part de la gauche de simplement rester à côté et elle est arrivée de trouver une position très très importante. Je me demande pourquoi pas il n'y a pas une personne de la gauche qui dans cette position. Parce qu'ils étaient naïfs. Et elle était très intelligente. Elle était au courant que c'était une position presque importante comme François Hollande. En fait, récemment, j'ai vu, ils ont discuté de la crise de l'immigration. Elle a annoncé, dénoncé Hollande comme chancellor assistant de l'Allemagne.
Oui.
Quelle culotte.
What?
Culotte, je dis.
Culot.
Ah,
culot.
Yeah, exactly. Elle peut dire ça à la présidente de la France, simplement parce qu'elle était en désagrément, et en fait, elle est une raciste. Tout à fait, exactement. J'ai entendu un entretien avec elle il y a quelques ans. Elle a dit... le meilleur travail pour des Arabes sont dans des usines. Un fasciste, mais néo-fasciste. Clever, méfiant. Si la gauche ne fait pas gaffe, ne fait pas attention, la droite va bien gagner.
Vous avez beaucoup milité, vous, dans les années 60. Est-ce que vous militez encore aujourd'hui aux États-Unis ?
militante, je ne sais pas, mais je suis au courant.
Et est-ce que vous diriez que vous militez par la musique?
Oui, je crois que c'est inévitable. La musique vient de beaucoup de souffrance, peine, une histoire d'esclavage, violence. On ne peut pas jouer ma musique, la musique noire, avec authenticité, sauf qu'on on exprime, on retrouve cette histoire. Ellington, il est un bon exemple. Il y a beaucoup de titres qui parlent de Black Experience. Harlem Airshaft, Take the A-Train, Black, Brown and Beige. Nous avons des artistes pas toujours jeunes, comme Ellington, un classique musicien du jazz, si tu veux, mais il était toujours engagé, sa musique exprime beaucoup de l'expérience noire.
Et est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas, que votre musique, parce qu'elle vient du continuum des musiques africaines-américaines, exprime toujours l'expérience noire, y compris quand vous remontez un big band pour jouer à Tikka Blues avec des musiciens français blancs?
Oui, comme j'ai dit, musique ne porte pas une couleur. C'est la même chose. Si j'ai joué la musique de Debussy, je ne joue pas cette musique, mais si j'ai joué, ça aurait été nécessaire d'avoir le sens de la musique classique et surtout d'avoir un sens de feeling des compositeurs français. Si je joue cette musique, je ne peux pas approcher comme la musique de B.B. King. C'est-à-dire, c'est nécessaire pour un musicien d'entrer dans le feeling, l'ambiance de la musique. Si un musicien blanc joue African-American musique, par exemple le blues, Eric Clapton, il ressemble à B.B. King. Il n'essaie pas de jouer comme Dre Brown, parce que c'est un autre genre. Un musicien blanc français, quand il joue le blues, il joue en fait toutes les conventions qui supportent. He plays the blues. He enters into the convention of African American music. So in that sense, even though a musician is black, they can play black music. It's the way Leontine Price, le grand chanteur soprano, elle a chanté tout des grands opéras et choses écrites par des musiciens blancs. Elle est bien appréciée pour cette qualité. Elle a chanté Barbara Hendrix. Elle chante bien la musique classique. C'est pas une musique noire. Donc, musique does not have a color.
Okay.
I call it black music because black people created the music, but it doesn't mean that only black people can play that music. Ça, c'est important de faire clair, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'accusent de dire que les gens blancs ne peuvent pas jouer la musique noire. Ce n'est pas du tout ça. Je dis simplement que nous avons une musique que nous avons créée et quand vous entrez cette espèce, vous êtes chez moi.
Mmh. Ok.
Ouais.
Peut-être pour les gens qui regardent, qui vont regarder l'entretien et qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit, est-ce que vous pourriez simplement nous raconter à quoi fait référence l'album Attica Blues ?
Oh, c'est... j'ai écrit une musique vers 1970 quand il y avait beaucoup de... révoltes dans des prisons. Plusieurs. En Attica, il y avait le meurtre de George, l'assassination de George Jackson. J'étais assez jeune à ce point-là, dans 30 ou peut-être quelque chose. Et, mon batteur, en fait, il a donné l'idée d'écrire musique qui...
rend hommage.
Un hommage, tout à fait.
Et cette période-là, le début des années 70, c'est la période qui correspond... au moment où vous vous détournez du free jazz?
En fait, c'était vers le temps où ma mère était morte. Elle était morte à 50 ans, assez jeune. Et j'étais bien ému. Touched
by, oui.
And I remember je me souviens quand j'ai commencé d'enregistrer, ma maman elle a écouté ma musique et j'ai passé chez moi, à ce point-là j'étais marié, j'ai passé visiter ma mère et elle a dit mon fils, tu joues toujours des petites mélodies sans chanson, tu joues toujours des petites chansons sans mélodie. Elle a dit oui. Ça, c'était le free jazz. Ouais. Et après sa mort, j'ai commencé à réfléchir que, en fait, la plus partie de mon audience était blanche. Des Noirs, ils n'ont pas écouté cette musique, presque du tout. Et je me demandais pourquoi je joue une musique que mes peuples ne comprennent pas. Et à ce point-là, mon père il a joué le blues. J'ai commencé avec mon papa. Et toujours, il m'a dit, cette musique tu joues et tu ne vas jamais gagner un sou. Il a dit, le peuple attend le blues, la musique populaire. À ce point-là, j'ai réfléchi que peut-être ils avaient raison. Pas pour l'argent, mais pour le sens, dans le sens de communication avec mes peuples. Et Attica Blues, c'était...
un retour à cette forme de communication.
Tout à fait.
Ralph Ellison n'aimait pas le bebop parce qu'il estimait qu'il s'était coupé de son assise populaire. Et finalement, c'est un petit peu ce que vous dites aussi par rapport au free jazz et au blues.
Oui, mais il avait beaucoup de respect pour Charlie Parker.
Vous ou Ralph Ellison,
yes.
Oui.
Yeah. So, il était une partie d'une époque. Il vient de musique de Lester Young, mais il était en partie de la génération de Charlie Parker et Miles Davis plutôt.
Est-ce que vous l'avez rencontré une fois au Ralph Ellison?
Non, mais James Baldwin, j'ai rencontré.
Oui.
En fait, quand j'étais une enseignante, il est devenu un professeur à la même université et mon bureau était juste en face. Diagonale de la sienne, la sienne. So, j'avais quelques occasions de parler avec Jimmy.
Je peux dire quelque chose? Je pense que la question était très intéressante là, parce qu'en fait, tu m'as aussi dit parfois que c'était Charlie Parker et cette période-là qui avait fait que cette musique avait atteint un palier de musique.
Oui, il était important parce que c'était Parker qui était le représentant de transition entre la musique et... qui vient avant la musique d'Ellington jusqu'à Lester Young, et Parker. Parker était important parce qu'il a importé le sens de l'urbanité à cette musique. Avant, c'était plutôt dans le blues, mais après Parker, la musique... a pris une certaine sophistication qui n'est pas sophistication, je veux dire. Par exemple, mon père, il n'aimait pas du tout Parker, Bud Powell, il a dit ces types sont moches. Jusqu'à j'ai fini l'université, après l'université, il a dit peut-être tu as raison, Parker, il n'aimait. Il a un point, il fait un point avec sa musique. Mais avant ça, non. Parce que beaucoup de gens de son génération viennent du sud des États-Unis. Comme moi, je suis né en Floride. Et Parker a apporté le sens de New York. c'était la guerre deuxième.
Mm-hmm.
Et des Noirs, ils ont trouvé, commencé de trouver leur identité, comme Jimmy Baldwin, leur identité propre. Et on Parker, on trouve une musique qui est, en fait, transporte le blues de notre espèce.
Leaving Dizzy's group, and I knew the press agent at the club, and I asked him, who could you possibly get to replace Don? And he said, oh, some cat in Kansas City, you don't know him, his name is Charlie Parker. And I said, is he cute? And my friend said, no, but you'll dig him.
What do you think about Yardbird?
Et je crois que ce qu'Ellison reprochait au Bebop et à Parker, même si par ailleurs il l'aimait bien, il aimait même beaucoup Charlie Parker, c'est qu'il trouvait que le Bebop c'était une évolution de la musique qui ressemblait trop à la conception occidentale de l'art. C'est-à-dire d'un art qui est séparé de la vie, d'une scène qui est séparée de la salle. Et pour lui, le symptôme de ça, c'était que les gens dans le public avaient, avec le bebop, arrêté de danser. Maintenant,
pas
ils écoutaient.
En fait, il y a une danse qui a été créée en Philadelphie, qui est même toujours connue. On appelle le slap.
Le slap?
S-L-O-P.
Qu'est-ce que c'est?
Slap, il y a un sens quotidien, ça veut dire une peau, on peut y avoir salive, dans des bars, on appelle le slap jar.
Oui, oui.
Oui, mais le slap, c'était une danse fait... partout en Philadelphie, quand j'étais jeune, et c'est devenu très populaire. Et des gens à danser à la musique qu'on appelle bebop. C'était une danse qui a.
Donc on dansait le slap sur le bebop.
Oh, wow, yeah. Oh, baby, slap, big time.
Et alors ça ressemblait à quoi? C'était quoi comme danse?
Oh, c'est James Brown, ils font ça.
Ah bon?
Yeah.
Alors?
I'd have to find it. Il y a un truc online.
Oui?
Oh, yeah, it's really quite... c'est une danse.
James Brown slap?
Non, il mélange quelques... Il fait aussi le truc de Michael Jackson, qui est un peu...
Moonwalk.
Moonwalk. Mm. Peut-être il l'a fait avant Michael Jackson. Si tu vois James Brown faire le moonwalk, c'est incroyable.
Ah oui, il faut que je regarde ça.
Oui, il faut que tu regardes. Et en même temps... il résulte quelques steps qui viennent de la slap.
Ok. Donc finalement, le bebop n'était peut-être pas si séparé de la vie que ça, et du corps. Et est-ce que vous aussi, vous souscrivez à l'envie d'Ellison de ne pas avoir un art séparé de la vie? Et est-ce que peut-être cette espèce de retour vers le blues que vous avez fait à partir des années 70, c'était dans cette idée-là? L'idée du rejet d'un art considéré comme sacré, d'un art complètement déconnecté de la vie et des gens à qui il s'adresse.
I never considered myself a free jazz player. I never liked the term, and I never considered myself. C'était une appellation qui était donnée à moi après j'ai commencé à jouer avec Cecil Taylor. Et en fait, j'étais vraiment une partie de ce style de musique, mais j'ai toujours mélangé mon expression avec des idiomes du blues. En fait, j'étais critiqué souvent par mes collègues qui m'ont dit, qui m'ont appelé. Bluesman, il joue pas free, il joue le blues. Parce que même avec cette musique, ce genre, j'ai toujours porté des éléments, j'ai pris de mon père.
Oui. Ma formulation était maladroite. Let me put it this way. Quand vous jouez, pour qui jouez-vous? Est-ce que vous jouez pour un public précis? Est-ce que le public, votre public réel, correspond à votre public idéal?
Presque jamais. Surtout ici en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent écouter cette musique pour des raisons intellectuel et j'espère c'est communiquer avec des autres. Mais par exemple, j'ai fait un disque de spirituel. Il y a un moment, j'ai commencé une chanson My Lord, What a Morning. Et j'ai commencé à pleuvoir. Et je ne peux pas jouer. Et pour un moment, j'ai dit à moi-même, je ne vais pas finir ce disque parce que je suis trop plein. Je viens du sud, j'avais souvenir des lynchings, violences, ma grand-mère dans l'église, tout était là. Et j'ai commencé à pleuvoir. Mais j'avais le sens que, et j'ai dit à moi-même, c'est important que vous faites ça. Parce que si vous êtes trop plein d'émotions, tu ne vas jamais exprimer la vérité de cette histoire, de l'histoire de tes peuples. Et c'était comme ça que j'ai continué. J'ai parlé à moi-même, il faut arrêter à pleurer, c'est le temps de faire ton exprimer ton statement, to tell the truth. Et qui va dire ça sauf que toi? Il y a des autres, bien sûr, mais à ce moment-là, c'était mon chance. C'était mon temps d'exprimer cette expérience d'un peuple qui a bien souffert et qui a survécu, qui a laissé un corps de chansons riches qui touchent, qui me fait pleurer. Mais il faut dire cette histoire, c'était important. Donc, pour moi, quand je joue musique, enfin, c'est pour moi que je joue. Parce que ça porte à moi un sens, pas seulement de plaisir, mais je peux exprimer des émotions les plus profondes dans mon cœur avec. Et on espère que c'est bien compris par l'audience.
Sick and filled with pain, You feel your life is in vain. Got to keep your faith in God. He'll protect you from your greatest fault. You just gotta call. Claudine, I mean Myers. A piece written by Claudine Myers. You gotta call him.
Mm. Wow. Okay.
Bah oui, je veux bien conclure. Moi, je sais pas trop quoi dire après ça.
Wow, c'est une dernière question.
Non, ça va. Toi? Merci. Merci.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Vous aussi.
Call him! Call him! Call him! Yeah. One more time, just call him. You got to call him. Just call on him, baby. Call on him for the people. Let me hear you. You got to call! Thank you very much.